à tous. Son livre best-seller, La vie secrète des arbres, nous plongeait dans le monde fascinant des forêts, la vie secrète des animaux, privilégier la faune à la flore. Son nouvel essai documentaire sur les phénomènes d'interdépendance en milieu naturel vient clore tout naturellement cette trilogie. Ingénieur forestier l'allemand Peter Wohlleben sera notre invité à partir de 12h55 pour le réseau secret de la nature qui paraît aux arènes. Mais d'abord, des pentes en série pour son Vernon Subutex Retro Rock, présenté en ouverture de Cannes Série le 5 avril prochain, l'adaptation en 9 épisodes de la trilogie à succès de l'auteur de Baise-moi ou encore Bye Bye Blondie sera diffusée à partir du 8 avril sur Canal. Avec nous ce midi, la scénariste et réalisatrice de la série Cathy Vernet et le romancier Laurent Chalumeau, auteur de Fuck, Kiff ou encore Vénère chez Grasset, ancien de Rock and Folk, décrit par l'ami des pentes comme carré, rapide, très cool, tout en ne laissant rien passer. Il est à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Je me souviens, on entrait dans le rock comme dans une cathédrale. C'était un vaisseau spatial, cette histoire. C'était la dernière aventure du monde civilisé. J'ai aucun souvenir entre 16 et 23 ans d'avoir regardé une émission à la télé. Ce qu'on voulait, c'était ce son.
Bonjour Cathy Vernet.
Bonjour.
Voilà la bande-annonce de cette nouvelle série à voir bientôt sur Canal, Vernon Subutex. Et bonjour à vous Laurent Chalumeau.
Bonjour.
La série s'ouvre sur la vie d'avant, le Je me souviens, des soirées aux vraies airs de paradis artificiel où le rock faisait office de messe cathartique. Le temple, c'était Revolver, la boutique de disques tenue par Vernon Subutex, le cœur du réacteur, une bande de potes en guerre, comme il le dit, contre la tiédeur. Quelle était la bande-son de ces années-là, vous qui les avez un tout petit peu vécues, Laurent Chalumeau?
C'est-à-dire qu'il y avait encore un tronc commun autour duquel les différentes tribus pouvaient communier ou tourner en rond, et faire la chenille. Maintenant, tout est atomisé, chacun écoute son truc dans son coin, avec des procédures et des protocoles d'écoute et d'initiation complètement revus. Il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant, c'était différent, mais les années 80, même 90, et allez, en pissant dans le réservoir, le tout début des années 2000, il y avait encore une rock culture ou une pop culture qui pouvait être œcuménique. Et ça s'est volatilisé. Donc c'est aussi la nostalgie de cette époque-là.
Vous pouvez glisser quelques disques dans le jukebox là pour comprendre quel était ce tronc commun à l'époque?
Bah la dernière vraie aventure collective, si on laisse le hip-hop de côté qui est une galaxie à part, la dernière grande aventure collective qui avait un peu réconcilié tout le monde, c'était le grunge, c'était Nirvana. Vous en voulez un autre?
Oui.
Alors il y a un phénomène auquel moi je n'ai guère participé et qui m'a laissé un peu circonspect, mais dont je suis obligé d'accuser réception, c'est Radiohead.
Et vous, à 20 ans, vous écoutiez quoi?
Ah, de la musique américaine, même quand elle était jouée par des Anglais. Et puis, quand j'avais 20 ans, il était encore l'heure du punk. Donc, en dédommagement de l'âge qui commence à me venir, j'ai le souvenir d'avoir vu les Clash à Mogador 5 soirs d'affilée, parce qu'ils s'y produisaient pendant une semaine et j'étais à tous les concerts. Et puis, je pourrais dire aussi que j'ai vu Bruce Springsteen 45 fois, enfin voilà. Mais oui, la fin des années 70 et le début des années 80, musicalement, c'était pas une période paresseuse.
Le décor musical est un peu planté avec vous. Maintenant, les huissiers frappent à la porte. C'est Vernon qui est expulsé, cheveux gras, glandeur assidue, fumeur de joint. Il est, comme il dit, le dernier avant l'extinction de l'espèce. À travers lui, le temps s'est arrêté. Comment l'incarne-t-il jusqu'à l'extrême, cette vie d'avant, Cathy Vernet, Vernon Subutex?
Il l'incarne parce qu'il a un pouvoir, je crois, Vernon. Un pouvoir de décrypter les gens et de les toucher et de les changer par la musique. Il les écoute tout simplement, il ne les juge pas. Et en les regardant avec bienveillance comme ils étaient avant, peut-être mieux, hein, ils ont peut-être trahi pour certains leurs idéaux de jeunesse, en ne les jugeant pas, il les reconnecte avec ce qu'ils étaient. Et il les reconnecte entre eux aussi, puisque tous finissent par le chercher. Donc il a ce pouvoir presque mystique à la fin, parce qu'il va s'élever pour ne pas être dans ces deux mondes. Il n'est plus dans le monde des actifs puisqu'il est expulsé. Il n'est pas vraiment encore dans le monde des SDF. Et il choisit de s'élever un peu comme un Christ.
Moi aussi, je suis seul. C'est bien d'être seul. Moi, je me dis, je suis peut-être un loser. Je suis un loser libre. Libre de me lever peinard, de boire mon café à mon rythme. Libre de choisir la soupe que je veux manger, celle à 80 centimes, là, chez ton frère,
ouais.
Avec les vermicelles.
Ouais, ouais, celle-là, je la connais, ouais. Quand j'étais étudiante.
Elle est hard, hein.
Il y a un truc que je peux vous offrir en échange de la cosse. Un morceau.
J'aime bien associer les gens à une musique. Vous allez voir. C'est pas forcément ce que vous pensez dégager. Mais moi, c'est ce que je perçois.
Ok ?
Vous pouvez faire les annonces de disques, Laurent Chalumeau, parce qu'il vient d'avoir quelques-uns dans cette émission.
Alors celui-là, non.
Non ?
Non.
Moi, je peux.
Ah,
c'est Karen Dalton.
Ah.
Voilà. Bien.
Et ça, qui l'a choisi pour la bande-son de la série ?
C'est moi, avec mon superviseur musical, Mathieu Siboni et Jamie Herlay. En fait, on cherchait un morceau qui puisse toucher cette femme dont on ne connaît rien, à part qu'elle mange bio et qu'elle a l'air assez désespérée. Elle ne le regarde pas, elle ne regarde pas Vernon, il lui tape une clope et elle a pas, voilà, elle le regarde comme un exclu. Elle n'a pas envie juste d'avoir un moment de partage avec lui. Et lui, lui propose, il la regarde, il lui dit, bon voilà, je vais vous faire écouter un morceau. Et voilà, on cherchait ce morceau qui allait la toucher, qui allait faire en sorte qu'elle allait le regarder, se dire, mais en fait, cet homme-là à côté, finalement, il m'a cerné, il a compris quelque chose de moi, il me touche, et elle pourrait presque lui dire, viens chez moi, elle le fait pas, parce que son bus arrive, et voilà, mais cette voix qu'on trouvait habitée, voilà, blues, c'est une femme qui était très proche de Bob Dylan, qui a une vie, qui est morte du sida, qui a une vie assez incroyable, elle nous déchirait, c'est un choix complètement subjectif. Ça m'a ému, ça m'a touché. Je me suis dit, voilà, moi, il pourrait écouter ça. Je le regarderai, cet homme.
Ça, vous, Laurent Lachalumeau, on vous met ça dans les oreilles. C'est un morceau qui vous touche.
Ah oui, non, j'ai trouvé ça très beau. Je me demandais de quand ça datait. Moi, je pensais que c'était un morceau récent. Et en fait, sans doute pas.
Non. Elle est morte, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais au moins 20 ans.
C'est Romain Duris qui incarne Vernon Subutex, l'acteur fétiche de Cédric Lapiche, qui est à nouveau dans un rôle d'ado qui refuse presque de grandir, ou en tout cas qui ne grandit pas malgré lui. Subutex, c'est le personnage principal de la série. Pourquoi avoir choisi de recentrer la narration autour de lui, Cathy Vernet, sachant que cette trilogie de Vernon Subutex est pensée comme un roman choral, c'est une galerie de personnages à travers lui, on en rencontre beaucoup, mais il n'est pas aussi central dans le livre que dans votre série.
C'est vrai, il n'est pas aussi central et surtout il n'est pas aussi actif parce que c'est comme un passeur. Il va à la rencontre de plusieurs mondes, de tous ses anciens amis et on découvre cette génération à travers lui. Et c'est comme le reflet de notre société, mais lui ne participe pas à l'action vraiment dans le roman. Et il nous fallait justement le rendre plus héroïque. C'est pour ça qu'on lui a donné des enjeux un peu plus existentiels de retrouver ses cassettes, de les écouter et de, comme il est le gardien de la mémoire de cet ami qui est mort. Donc c'était un peu l'ambition et l'enjeu de la série, le rendre plus actif. Et on voulait que ça soit lui le personnage central parce que c'est un roman sur la nostalgie. comment rendre compte de la nostalgie en images. C'était quand même très difficile. Et je pense que ça ne pouvait que passer par lui, voilà, son regard.
Alors vous dites des cassettes parce que Alex, qui est devenu un peu la superstar du groupe, celui qui a réussi, va se suicider, ou en tout cas va mourir pendant la nuit, probablement d'overdose, mêlée d'un peu autre chose. Mais juste avant cela, il va raconter, témoigner face caméra et laisser des cassettes où il explique ce geste. Ces cassettes, Vernon Subutex va les prendre avec lui et beaucoup vont lui courir après pour tenter de les récupérer et savoir le pourquoi du comment. Protagoniste et anti-héros, Vernon Subutex, de cette série, pensé par Virginie Despentes comme un leader d'une passivité inouïe, disait-elle, pas très déterminée, entre sagesse et inconscience totale.
Il a un caractère facile, Vernon. C'est un gars doux. Il se caractérise vraiment par son extrême douceur. Et il est adaptable. Donc quand ça se passe pas trop bien, il s'adapte à cette nouvelle situation où ça se passe pas trop bien. Non, mais il a une attitude, quoi, en général. Il a de l'humour, il a une attitude et il a une tranquillité, ouais. Ce qui fait que c'est à la fois pas un héros si facile que ça à manier parce qu'il est très passif, mais à la fois il est très agréable, comme compagnie à convoquer. Pour moi, en tant qu'auteur. Il y a un éloge de la passivité dans Vernon. Une passivité de terre, quoi, par exemple. Une passivité de laquelle peut émerger et dont la condition est d'ailleurs la passivité, parce que si on remue une terre tout le temps, il n'y a rien qui peut en sortir, en fait.
On imagine plutôt, Laurent Chalumeau, Virginie Despentes, que vous connaissez comme une hyperactive, toujours concentrée sur ce qui se passe autour. Et c'est étonnant dans cet extrait de l'entendre faire cet éloge de la passivité. Ça lui correspond bien dans sa manière aussi de travailler.
Ben, on a tous envie d'être ce qu'on n'est pas. Et je pense que l'un des rêves de l'existence de Virginie, c'est d'être passive et paresseuse. Et évidemment, elle n'y arrivera jamais. Mais oui, ça fait partie de la panoplie à laquelle elle aimerait se conformer parce que ça correspond à des modèles ou à des références qui sont aussi ceux de sa génération. C'est Virginie, c'est une ex-punk. Enfin, je sais même pas si le ex est pertinent, mais entre les punks et les babs. À quelques détails pileux et vestimentaires près, d'un point de vue idéologique, la frontière était très très ténue. C'est-à-dire que les uns se présentaient comme le négatif photographique des autres, mais bon, en fait, c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient souvent, c'est des gens qui reniflaient de la colle, mais qui étaient végétariens. Donc il y a cette contradiction-là qui est aussi à l'œuvre chez Virginie, je crois.
Et c'est un personnage qui lui ressemble ou pas, Vernon Subutex ?
Je pense qu'il est plus apaisé qu'elle. Enfin, je suis pas le médecin traitant de Virginie Despentes, ni le thérapeute de Vernon Subutex, mais il est plus apaisé et Dieu merci, Virginie arrose ses colères tous les matins, sans quoi elle ne nous donnerait pas tous ses livres enragés et bienfaisants et bienveillants à la fois. C'est parce que je pense que la raison pour laquelle les livres ont à ce point infiltré tous les recoins du lectorat français et puis maintenant à l'étranger, c'est que sans aucune mièvrerie, ils réussissaient à se connecter, ils réussissaient à trouver à toucher des nerfs bienfaisants et bienveillants chez les gens. Mais sans mièvrerie, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire, c'est pas du feel good book, c'est plus ambitieux que ça.
Tout en nous montrant un peu tous, parce que toutes les couches de la société sont quand même représentées, leurs bons et leurs mauvais côtés. Est-ce que le tournage, Cathy Vernet, a aussi été pensé sur le mode de la passivité ou de cet éloge à la passivité? Vous avez semé, vous avez laissé reposer avant de labourer?
Le tournage n'a pas été très passif, non, je ne peux pas dire ça. Non, ça a été, même le travail pour adapter ce roman a été ardu, franchement. C'était 3 ans de boulot, j'étais très habitée et très soucieuse de respecter, de ne pas trahir, même si parfois il faut s'éloigner du roman. Et le tournage a été un tourbillon, pas du tout passif, une émulation collective. Tout le monde avait souci d'être à la hauteur, donc il y a eu une espèce d'énergie commune très très forte. Et on a choisi de travailler dans une immédiateté, c'est-à-dire on était caméra à l'épaule, équipe assez légère, pas de ce qu'on appelle de combo où il y avait une inertie derrière, tout le monde regardait. Moi, j'étais avec un petit combo autour du cou et en fait, on enchaînait les prises. Tout était pour le jeu, pas trop pour la technique. Et ça donnait une énergie, une concentration, voilà, qui était un geste. On ne s'arrêtait pas. Donc non, on n'est pas trop dans la passivité.
Vous en étiez, vous, Cathy Vernet, de cette génération. C'est aussi pour ça que vous avez choisi d'adapter cette trilogie de Virginie Despentes, parce que Vernon et sa bande ont aussi tapé à votre porte, à la porte de votre génération.
Ah oui, moi je crois que c'est universel. Je pense que toutes les générations se posent les questions de est-ce qu'en vieillissant, on trahit ses idéaux. Voilà, je pense que ça c'est commun à toutes les générations. Après, on parle quand même spécifiquement de celle-là, parce qu'on parle du rock, et moi jusqu'à quasiment cette génération, pas complètement, mais ça fait écho évidemment chez moi très fortement, et c'est pour ça que j'ai eu envie de l'adapter.
Vous parliez, Laurent Chalumeau, de nostalgie. Alors Virginie Despentes, quand elle revient sur ces années-là, elle y voit plutôt des années noires, hein, celles de l'adolescence, entre l'internement qu'elle a connu dans un hôpital psy, le viol aussi, mais elle parle aussi de la musique, du rock, du punk, comme des bouées de sauvetage. Et dans la série aussi, la musique, c'est ce qui reconnecte avec le passé. C'est aussi celle qui réchauffe Vernon quand il est à la rue. C'est en fait elle qui permet de faire du lien entre les personnages, de renouer aussi les liens distendus entre cette bande de potes quand ils avaient 20 ans, qui ont chacun suivi leur trajectoire depuis. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait du tome 2
de
Laurent Chalumeau ?
Subutex met Magic Bus des Who et Loïc sent une balle de chaleur qui lui réchauffe la gorge. Il adore ce morceau. Il n'aurait pas osé imaginer qu'il commencerait sa playlist de la sorte. Génial.
Takes me to you. Too much magic bus. I'm so nervous I feel sitting shy. Too much magic bus. The house is only another mile. Too much magic bus. Thank you, driver, for getting me here. Too much magic bus. You'll be an inspector, have no fear. Too much magic bus. I don't wanna cause no fuss. Too much magic bus.
Magic Bus, lancé brillamment par Laurent Chalumeau et qu'on retrouve dans la bande originale de la série, Vernon Subutex. Le rôle central de la musique est incarné aussi à la distribution, Cathy Vernet. Et ça, c'était une très belle idée par des acteurs, musiciens comme Fishback, comme Calypso Valois et comme Ataya Monconzi. Ils sont passés de la scène à l'écran pour vous ?
Ah oui, moi j'avais très envie, avec Élodie Demey, ma directrice de casting, complice depuis toutes les séries que j'ai faites, de trouver un casting éclectique, comme le sont les personnages du roman. Donc on a vraiment voulu mélanger, se côtoyer des acteurs de cinéma, des acteurs de la scène musicale et des premières fois. Il y a beaucoup de premières fois aussi. Ça crée une bande, ça crée une troupe, ça crée des accidents, des aspérités. Et voilà, je cherchais Je cherchais ça. Et Flora Fischbach, c'est sa première fois, en effet. Elle s'est énormément préparée. Elle arrivait, il n'y avait plus qu'à la laisser faire. Elle se laisse diriger aussi. Et j'ai beaucoup aimé mélanger voilà, ces sensibilités différentes.
Et vous l'avez jeté très vite dans le Gorbin de Cannes aussi, puisqu'une partie de la série se passe là-bas, la majorité à Paris. Laurent Chalumeau, vous, on parlait de nostalgie, vous avez été témoin, malgré vous, de ce changement d'époque. Vous regardez dans le rétroviseur avec plutôt tendresse ou nostalgie ?
Je regarde peu, en fait. Je n'esquive pas votre question, mais...
Mais c'est peut-être ça le secret, c'est peut-être ce qui vous protège d'un destin à la Vernon Subutex.
Mais je pense que en fait, assez vite, la musique que je me suis mis à écouter était déjà un objet possible de nostalgie. C'est-à-dire que dès le début des années 80, je me suis retrouvé à écouter des disques qui avaient 10, 15, parfois 20 ans ou plus, et j'écoute toujours les mêmes. Donc en fait, moi je suis une horloge arrêtée qui donne l'heure juste une fois par décennie, mais je suis au-delà de la nostalgie. Moi, je suis complètement calcifié et minéralisé. Donc je suis d'un sectarisme bienveillant. C'est-à-dire que je ne fais aucun prosélytisme pour rien, mais surtout qu'on vienne pas m'emmerder à vouloir me faire découvrir des trucs, parce que les rares fois où j'ai fait exception en me disant mais quand même cesse d'être un vieux con, on te dit que c'est le nouveau ceci ou la nouvelle cela, à chaque fois que je suis allé écouter, j'ai dit oui, alors c'est pas mal, mais je l'ai déjà en 14 exemplaires et sous des noms différents, donc j'ai cessé. Mais là, par exemple, le morceau que j'ai découvert grâce à vous tout à l'heure, je vais investiguer.
Mais alors, il faut vous appeler Laurent ou on peut vous appeler Monsieur Chalumeau? C'est une question qui est posée par la série. Vous acceptez l'idée de vieillir?
Je préfère qu'on m'appelle Chalumeau tout court, en fait.
Pas mal. Ça met un peu le feu, mais ça fonctionne.
Non, mais parce que ça renvoie aux années d'école. C'est comme ça que les profs vous appellent, c'est comme ça que les copains vous appellent. Laurent, Fabius s'appelle Laurent aussi, donc voilà. Enfin, et plein d'autres. J'ai pas forcément envie de partager quoi que ce soit avec certains de mes homonymes, alors que Chalumeau, ma foi, bon.
Et dans la série, c'est Laurent Lucas qui incarne Laurent Daupalais, producteur quinquagénaire, qui n'aime pas spécialement vieillir et incarne surtout cette nouvelle génération, cette nouvelle époque, en fait. Parce que 20 ans ont passé, le CD a littéralement tué le vinyle, le rêve sacré a été transformé en usine à pisse, comme le dit Vernon Subutex, la marge est devenue mainstream, l'industrie du disque et du divertissement a fait main basse sur l'underground. Comment le disque, Laurent Chalumeau, pour vous, a commencé à se rayer? Qui est responsable de cette sortie de sillon de ces belles années?
Si j'avais su, j'aurais préparé. Je dirais les baby-boomers. C'est pas cette génération, c'est ces générations de gens qui sont soit arrivés à l'adolescence, soit nés pendant les fameuses 30 glorieuses, enfin des gens qui ont été élevés dans l'idée que ils étaient là pour jouir et que leur culture était ce qu'on avait jamais fait de mieux dans toute l'histoire de l'humanité. Vous tricotez ça avec des progrès technologiques et une augmentation générale du niveau de vie et je sais pas où je vais là, donc j'y vais un grand remplacement du consumérisme, enfin un grand remplacement des spiritualités par du consumérisme, et vous mettez tout ça dans un chaudron, vous laissez mijoter, et effectivement, du coup, les gens pendant les années 90, enfin fin 80 et 90, ont été enchantés de racheter entièrement leur discothèque vinyle sous forme de CD, parce que c'était pour eux un gage de modernité et un signe extérieur d'élévation et d'inscription avec l'air du temps. Évidemment, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire exploser le coussin afghan sur lequel ils étaient affalés.
Enfin, aujourd'hui, on en revient au vinyle. C'est peut-être le...
Certes, parce que c'est pareil, le vinyle devient une coquetterie. Alors, c'est très sympathique de voir que ces jolies grosses galettes redeviennent des signes de reconnaissance, Mais c'est un snobisme.
La férocité de cette nouvelle époque, la nôtre, aujourd'hui, est incarnée par la hyène, Céline Salette à l'écran, belle androgyne dont le boulot, c'est de faire et de défaire les réputations. On va juste faire les présentations.
Monsieur de Palais n'est pas là ?
Non mais heureusement, si c'est vrai que tu l'appelais monsieur, il te virerait direct.
Ah bon, mais pourquoi ?
C'est comme si tu le traitais de vieillard, faut choisir ou tu l'appelles Laurent ou connard, mais pas monsieur.
Moi c'est Anaïs, enchantée.
La hyène.
Ok. Et vous travaillez pour Laurent alors ?
Non, disons qu'il se paye mes services de temps en temps.
Ah ok. Vous créez des faux comptes pour défendre les chines de Laurent, c'est ça ?
Pour descendre ceux des autres. C'est beaucoup plus jouissif.
Ok, je comprends. La hyène.
Celui qui défonce, c'est celui qu'on écoute. Règle du monde moderne.
C'est une belle devise.
Pour 500 euros, je démolis un film. Pour le double, je pourrais une réputation. Et puis si t'as vraiment de l'argent, je peux vraiment ruiner la vie de quelqu'un. Je suis une sorte de dieu 2.0.
Il y a un jeu de miroir, Cathy Vernet, entre Subutex et la hyène. Au final, vous ne tranchez pas, on ne sait pas qui a raison, qui a gagné autour de vous. On imagine, il y a aussi ceux qui se sont laissés convaincre par les attraits de cette nouvelle époque et ceux qui se sont laissés vaincre par tout cela, les faibles, les doux, les milliers de vaincus, comme vous le dites dans la série. Est-ce que c'était pour autant ou est-ce que ce sont eux les purs ?
Je pense que oui, je pense que c'est eux les purs. Et il y a en effet un écho entre la hyène et Vernon par leur solitude. Mais la hyène, alors, on l'a bien vu dans cet extrait, elle est quand même du côté obscur. Et c'est un des personnages qui a une trajectoire qui évolue le plus, puisque elle va, par l'amour, par la rencontre avec Anaïs, par la rencontre avec Vernon, par la reconnaissance de cette communauté, de ce collectif perdu puis retrouvé, par ces purs, elle va choisir la rédemption. Donc, elle devient pure, j'espère. En tout cas, elle choisit la lumière à la fin. Mais j'ai spoilé, là.
Quelques mots de Virginie Despentes pour terminer avec vous. Extrait du tome 1, si vous le voulez bien.
C'est chez Kiko, j'ai l'impression. L'enculé prend un virage à 180 degrés. Musique chaude et kitsch et ça passe. Kiko jette un œil à son iTunes. Candy Staten, I'd rather be an old man, sweetheart. Mais putain, comment ce fils de pute a osé jouer ça maintenant ? Pile ce qu'il lui fallait, qui convient pour que les petites se réchauffent malgré la coca. Groovy Night, jamais vu un fils de pute pareil.
Et on se quitte avec ce Candy Staten. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, Cathy Vernet. Je rappelle donc que le premier épisode sera diffusé le 8 avril sur Canal de cette nouvelle série Vernon Subutex que vous signez et réalisez. Merci à vous, Laurent Chalumeau, d'avoir été autour de cette grande table pour faire remonter un peu ces années folles. Merci à tous.
Merci.